ne sera rien. Rien que des mots, des mots. Des mots, comme à la radio. Ça ne dérangera pas, ça n'empêchera pas de jouer aux cartes, ça n'empêchera pas de dormir sur l'autoroute, ça n'empêchera pas de parler d'argent. Ce sera tout à fait comme à la radio.
Bonsoir, bonsoir. Radio Pleine Lune, 93.8 MHz. Il fait terriblement froid dans le studio. La semaine dernière, vous vous souvenez, on n'avait plus de lumière. Aujourd'hui, on n'a plus de chauffage. Donc, pour nous aider, dépêchez-vous, achetez une carte d'auditeur ou une carte d'auditrice. Nous en avons véritablement besoin en nous téléphonant au 50 40 51 41 023. Depuis Genève, 033. Depuis Nyon, Lausanne. Bon, Veve, d'accord. Pas plus loin. Et puis, dans quelques instants, c'est les nouvelles sur Radio Pleine Lune 93.8 MHz, suivi des coups de cœur de Marjolaine. À tout de suite. Radio Pleine Lune 93.8 MHz, nos nouvelles. À la veille des premières élections multiraciales en avril prochain, quelle est la situation des femmes en Afrique du Sud ? En Afrique du Sud, les femmes de couleur sont doublement victimes. Premièrement, bien sûr, la couleur de leur peau les a reléguées d'office dans la masse des êtres dits inférieurs et incapables. Deuxièmement, la société patriarcale leur assigne un rôle subalterne dans tout processus de décision au niveau familial, social et politique. Elles subissent en outre les frustrations de leur homme complètement plié et cassé par le régime d'apartheid qui se défoule à leur tour. Malgré cela, l'Afrique du Sud compte un grand nombre de femmes exceptionnelles, connues ou anonymes, artistes, syndicalistes, femmes d'affaires, écrivains, qui se sont battues comme des lionnes, dénonçant les injustices, réclamant leurs droits et refusant les compromis douteux. Il est vrai que tout est en train de changer en Afrique du Sud très vite, mais ce serait faux de croire que du jour au lendemain, l'égalité femmes-hommes sera chose faite. L'Afrique du Sud vit cependant un moment unique dans son histoire où tout est possible, dans le meilleur sens du terme. Cette occasion, il s'agit de ne pas la rater. Ici comme ailleurs, les femmes ont un grand pouvoir. Et il y a des femmes extraordinaires. Par exemple, ces femmes qui ont décidé en 1992 d'ouvrir une banque, un peu à la manière dont ça s'est passé au Bangladesh. Une banque qui veut venir en aide aux autres femmes. C'est la Women's Development Bank qui, au début, a recruté 120 premières clientes et à partir duquel elle a mené toute une réflexion. Cet état pilote qui s'est adressé aux femmes des zones rurales, particulièrement touchées par la pauvreté, leur époux parti travailler en ville, elles se retrouvent chefs de famille à devoir loger, nourrir et vêtir les enfants et les vieux. Souvent, les maris fondent de nouvelles familles et ne donnent plus aucun signe de vie. L'objectif global de cette banque est d'intégrer les femmes dans l'économie et de servir de relais afin qu'elles retrouvent confiance en elles et jouent un rôle actif dans la société. Comme le dit une des coordinatrices de ce projet, il s'agit de faire la paix, pas d'en parler. Une initiative lancée par des femmes éparpillées aux quatre coins du pays est en train de s'organiser en vue des élections sous l'égide d'un comité de coordination de 6 personnes. En politique, elles sont conscientes de leur puissance. Les femmes, disent-elles, représentent 51% de la population. Dans une démocratie, nous sommes majoritaires. Si les politiciens ne tiennent pas compte de nos demandes, nous ne voterons pas pour eux. Les négociateurs sont déjà au courant. Le 8 mars 1994, les femmes du monde entier répondront à leur appel à l'occasion de la Journée internationale des femmes pour se joindre à elles et construire ensemble une Afrique du Sud basée sur des valeurs plus humaines, dans un esprit de tolérance, de solidarité et de responsabilité globale. D'autres projets, comme par exemple le Women's Health Project, qui s'occupe du problème du corps et de la santé. Cette association met entre autres sur pied toute une série d'ateliers afin d'apprendre aux femmes à connaître et à gérer leur corps. En Afrique du Sud, parmi les populations urbaines noires, le viol est presque devenu un mal inévitable. Dans les milieux estudiantins, des campagnes ont été mises sur pied pour rééduquer les jeunes gens, car il est effarant de constater que bon nombre nombre d'entre eux n'imaginent pas que l'on puisse avoir une vision de la femme différente. Il est malheureusement aussi nécessaire d'éduquer les femmes à ne pas considérer le viol comme une épreuve incontournable. Dans la même foulée, les femmes battues ne se comptent plus. Le chômage et l'alcoolisme contribuent à une escalade de ce domaine et il est intéressant d'ailleurs de constater qu'il augmente aussi dans la population blanche. Ces informations étaient tirées d'un article de Marie-Noëlle Anderson qui est paru le mercredi 19 janvier dans le journal Le Courrier. Nous aurons prochainement une interview avec Marie-Noëlle Anderson qui nous parlera de ses rencontres avec des femmes en Afrique du Sud. Lors des dernières élections en Russie, on a vu apparaître le Parti des femmes qui a obtenu 25 sièges sur les 450 à la Douma lors des dernières élections. Un peu plus donc de 5%, mais c'est déjà ça. Cette formation, qui est les sympathies des femmes de la marine et des femmes d'affaires, est dirigée par Alvetina Fedulova, une ex-communiste de 53 ans qui ne réunit pas son passé d'apparatchnik. Elle décrit son parti comme une formation centriste qui balaye large, à gauche comme à droite, qui s'oppose au libéralisme et à tout craint et défend les droits sociaux bien mal en point dans la Nouvelle-Russie. Le Parti des femmes réclame des pensions décentes pour les retraités, demande l'interdiction de la pornographie florissante depuis la chute du communisme. À noter qu'actuellement en Russie, les femmes constituent le gros bataillon des chômeurs, 70%, alors que leurs salaires sont d'un tiers inférieur à ceux des hommes. Allemagne de l'Est, les femmes déchantent. Entre 1989 et 92, la natalité dans l'ancienne RDA a chuté de 60%. Chômage, appauvrissement, incertitude, les femmes payent le prix fort de la réunification et célèbrent à leur manière le 3e anniversaire de la chute du mur du Berlin. Très désenchantées, elles recourent finalement à la grève des ventres. À peine le mur de Berlin a-t-il disparu qu'un autre mur l'a remplacé, invisible celui-ci, un mur fait de chômage, d'exclusion et de peur. Les femmes est-allemandes sont les premières à souffrir du désastre économique et social de la réunification. Phénomène unique en temps de paix, elles cessent en grand nombre de donner la vie. La natalité a commencé à chuter brutalement en 1991 jusqu'à atteindre le déficit record de 57% en 92, déficit qui s'est encore aggravé en 93 avec un manque à naître de 60%, ce qui correspond à environ un manque de plus de 150 000 enfants qui auraient dû naître. Certaines femmes renoncent même à donner la vie de manière définitive puisqu'elles choisissent de se faire stériliser et elles sont même de plus en plus jeunes à recourir à cette manière. Selon Gabi Roth, interviewée par le journal Femina, en Allemagne, les enfants sont devenus un article de luxe. Un article de luxe que plusieurs centaines de milliers de femmes ont choisi de se priver depuis la réunification. Une chute parallèle à celle des emplois et des places en crèche. Elle s'accompagne d'une montée en flèche des stérilisations dans les nouveaux Länder, puisqu'à Berlin-Est, il y a eu en 92, 70 fois plus de stérilisations qu'en 89. Les femmes qui viennent me voir, dit une des médecins responsables d'un centre de conseil pour la sexualité. Les femmes qui viennent me voir, dit-elle, pour un avortement ou pour une stérilisation, me disent presque toutes qu'elles ne feraient pas ce choix si elles vivaient dans les mêmes conditions de sécurité qu'en RDA. Il faut savoir que la situation est devenue aussi beaucoup plus difficile en ce qui concerne contraception et avortement, puisque la pilule qui était gratuite auparavant est devenue payante et même très chère, 25 marques par mois, que l'avortement qui était gratuit et autorisé jusqu'à 12 semaines est désormais réservé aux cas extrêmes. Pour celles dont les ressources sont trop faibles, qui redoutent d'assumer une grossesse alors qu'elles recherchent un emploi, qui ont peur de l'accident, il ne reste que la stérilisation sans retour et remboursée. Beaucoup de choses ont également changé pour les femmes. Bien sûr, les crèches qui étaient liées aux entreprises ont complètement disparu. Il y a de moins en moins de place dans les crèches. Et en plus, la notion de chef de famille, qui était inexistante auparavant, a été rétablie avec elle, la référence obligée au mari. Et les employeurs ne s'empêchent pas de demander qui est le mari, combien il gagne, etc. Ainsi, en Saxe et même en Saxe-Anhalt, selon une responsable de la condition féminine du Land, quelques employeurs sont allés jusqu'à réclamer des certificats de stérilisation aux demandeuses d'emploi. En Finlande, une femme est en tête des présidentielles. Les Finlandais, bravant la neige, se sont rendus en masse aux urnes dimanche dernier pour une première élection présidentielle au suffrage universel. La campagne a été dominée par la crise économique et la candidature du pays à l'Union européenne. Selon un sondage à la sortie des urnes réalisé par une radio, c'est Elisabeth Rehn, le ministre de la Défense du gouvernement précédent, qui émerge du Parti du peuple suédois, un parti libéral, qui arrive en tête avec 30% des suffrages. La participation avoisine des 80%. France, on s'achemine vers une loi contre la procréation artificielle après la ménopause. Le ministre délégué de la Santé s'est prononcé contre les techniques permettant à des femmes d'avoir des enfants après la ménopause. Il a annoncé qu'une loi en ce sens serait présentée prochainement au Sénat. La polémique sur les grossesses assistées a été relancée par plusieurs affaires en Italie et en Grande-Bretagne. À Londres, une femme de 59 ans, suivie par le docteur italien Antoniori, a donné naissance à deux jumeaux. Ce gynécologue romain a annoncé qu'une de ses patientes, âgée de 62 ans, était enceinte de 3 mois. Toute cette question des enfants, en quelque sorte artificiels, pose de nombreux problèmes. Entre autres, les relations entre les pays pauvres et les pays riches. Car pourquoi mobiliser toute cette technologie et tout cet argent pour répondre aux fantasmes d'une seule femme, alors que des enfants bien vivants meurent par milliers chaque jour par manque de soins et d'argent. Les techniques de fécondation, d'autre part, ces techniques ont été mises au point pour détourner ou, si ce n'est guérir, le problème de la stérilité et non pas pour lutter contre le vieillissement et l'âge. Et surtout, s'il y a des inégalités entre hommes et femmes, et celle de la ménopause en est une, puisqu'une femme, effectivement, à partir de 50 ans, ne peut plus faire d'enfants alors qu'un homme peut encore, ce n'est pas la technologie qui résoudra les problèmes entre hommes et femmes, mais bien une réflexion sociale, éthique et politique. Avortement. Un projet de loi autorisant l'avortement en cas de difficulté sociale a été déposé en Pologne. Depuis un an, l'interruption de grossesse est interdite dans le pays, sauf en cas de viol, d'inceste et pour protéger la santé de la femme. Le nombre d'infanticides et d'abandons d'enfants est d'ailleurs en constante augmentation. Au Canada, 3/4 des femmes médecins de l'Ontario ont été harcelées au moins une fois dans l'année par des patients, c'est ce que révèle une étude d'un journal. Cela va du regard appuyé aux remarques salaces, aux cadeaux inappropriés et aux demandes d'examens génitaux inutiles. En Inde, une adolescente indienne de 16 ans et son amoureux de 18 ans étaient étranglés par l'oncle de la jeune fille, assisté de tout le village dans une communauté du nord de l'Inde. La famille s'opposait au mariage des deux jeunes gens. Autre acte de barbarie en Allemagne, où en ex-RDA à Erfurt, 3 extrémistes de droite ont agressé dans la nuit une Nigériane enceinte de 23 ans qui a dû être hospitalisée. Les agresseurs, âgés de 16 à 22 ans, ont été arrêtés et ont expliqué qu'ils n'avaient pas aimé la couleur de peau de la victime. La jeune femme enceinte de 5 mois a été frappée de plusieurs coups de pied de poing au ventre. Aux États-Unis, alors que le féminisme est un petit peu bat un peu de l'aile, les hommes s'organisent pour se défendre. En effet, aux États-Unis, le mouvement féministe souffre d'une ce qu'on pourrait appeler une crise d'identité. En tout cas, c'est comme ça que la question que pose le mensuel The Atlantic dans un numéro récent à laquelle l'auteur de l'article répond oui, effectivement, le féminisme américain traverse une crise car il y a énormément de courants qui agitent la communauté féministe. Et on n'arrive pas à se mettre d'accord. Tout cela, bien sûr, à la satisfaction d'un certain nombre de groupes d'hommes, un peu paranoïaques pour ne pas le dire, comme la Fondation pour la libération du mâle, la défense des droits masculins et la Coalition nationale des hommes libres. Il s'agit de groupes marginaux, mais reflétant le malaise de nombreux hommes désireux de s'accrocher à leur position dominante, car ils se sentent contestés, critiqués ou même ridiculisés, comme dans certains films, comme par celui de Thelma et Louise, ou même dans les feuilletons télévisés. Bref, ils s'estiment les victimes d'une guerre non déclarée entre les sexes, comme le dit Suzanne Faludi dans un très bon livre que je vous conseille, Backlash. L'arrivée de Bill Clinton à la Maison-Blanche et le rôle important attribué à sa femme Hillary entretiennent leur crainte diffuse de souffrir d'une discrimination favorisant les minorités ethniques, les Noirs, les Hispaniques, les Asiatiques, mais aussi les femmes. Crainte imaginaire d'ailleurs, comme le soulignent différents sondages qui établissent que les hommes contrôlent toujours 82% des grandes affaires, 79% du Congrès et 80% des médias. Les dirigeantes féministes peuvent s'inquiéter d'un certain piétinement du mouvement. Ainsi, selon un sondage, 59% des femmes interrogées par l'Institut Gallup estiment que les femmes doivent rester au foyer et laisser aux hommes leur vocation traditionnelle de protéger et d'entretenir la famille. Cependant, des nouvelles forces, si on peut dire, arrivent dans le féminisme, représentant ce qu'on appelle maintenant une troisième vague. Elle est constituée par des jeunes femmes ralliées à la cause féministe, notamment dans des collèges et même dans les écoles du secondaire. Cette troisième vague, un des groupes les plus importants, a pris d'ailleurs le titre de Société d'action directe de la troisième vague, veut briser les dernières barrières de la totale émancipation des femmes. Elles n'entendent pas se contenter des gains déjà obtenus dans les domaines économiques, sociaux et politiques par leurs aînés, auxquels elles rendent un hommage poli, tout en leur reprochant d'avoir déserté. Elles veulent donner un contenu plus large à leur activité, quitte à les intégrer dans l'action menée par d'autres groupes et même à s'associer aux hommes pour lutter contre le racisme, la pollution, la pauvreté et d'autres luttes encore. Que se passe-t-il du côté de l'égalité en Suède ? Vous savez que déjà depuis 68, la Suède a été considérée comme le pays à l'avant-garde en ce qui concerne les questions féminines. Il y a eu par exemple en 1973 déjà l'introduction en Suède du congé parental qui se présente comme suit: à la naissance de l'enfant, le père a droit à 10 jours de congé et tous les pères le prennent. Ensuite, le congé parental est de 360 jours avec un salaire presque intégral et de 90 jours avec une compensation salariale plus basse. Ce congé peut être pris soit par la mère, soit par le père, puisque dans la loi suédoise, il n'y a aucune référence au sexe. Selon les dernières statistiques cependant, seuls 8% des pères prennent ce congé, et encore semble-t-il pour aller à la chasse, et 90% des mères le prennent. Le résultat de l'introduction de ce congé parental s'est fait sentir entre autres sur le taux de la natalité, qui est maintenant parmi le plus élevé d'Europe, avec 2,8 enfants par famille. Ce système, introduit par les sociodémocrates en 73, est en voie de modification. Le gouvernement actuel, qui est une coalition de droite, propose maintenant une année de congé parental avec un salaire seulement de 80% et l'obligation de prendre un mois pendant cette période. Puis, on recevrait 3000 couronnes, environ 500 francs suisses, par enfant et par mois jusqu'à l'âge de 3 ans. Ce nouveau système va très certainement être voté car il semble qu'il soit économiquement avantageux pour les familles, mais de nombreuses femmes ont peur qu'il ne renvoie justement les femmes au fourneau et les rende dépendantes du salaire du mari. Touche pas à mes gènes, faut-il sauver les gènes des derniers Mohicans ou essayer de sauver les derniers Mohicans eux-mêmes ? C'est la question que pose la revue Science des mois de décembre. En effet, depuis 2 ans, un groupe de chercheurs américains se fait traiter de tous les noms à cause d'un projet qu'il persiste à présenter cependant comme un acte humanitaire : recueillir les gènes des groupes ethniques menacés de disparition. Il s'agit des Papous de Nouvelle-Guinée, des Pygmées, des Bushmen du Botswana, des Aïnous du Japon, des Yanomami au Brésil, des Maoris de Nouvelle-Zélande, des Tofa de Sibérie. Poussés dans leur dernier retranchement, ces gardiens du passé, ces peuples, tombent comme des mouches. À titre d'exemple, les Tofa ne sont aujourd'hui plus que 600 et la population Yanomami a diminué d'un bon quart depuis qu'on a commencé l'exploitation. Depuis que les chercheurs d'or sont venus polluer les confluents de l'Amazone au début seulement des années 80. Justement, on vient donc de mettre au point des méthodes qui permettent d'isoler des fragments du génome humain et il suffit pour cela de prélever du sang sur 25 personnes de chaque peuplade pour posséder l'essence même du groupe. Au début, l'initiative a suscité un vif enthousiasme dans la sphère scientifique, mais elle n'a pas tardé à faire naître d'embêtantes questions éthiques. Peut-on débarquer chez des crève-faim et leur dire bonsoir, filez-nous vos gènes et repartir en les laissant crever de faim, justement. En outre, un nombre croissant d'anthropologues commence à humer une odeur de racisme dans cette noble démarche. En effet, l'idée n'est-elle pas que les différences raciales ont un fondement biologique ? On n'en sort pas. Selon les promoteurs du projet, ce serait une tragique ironie si, au moment où l'on a tous les atouts scientifiques en main, on assistait les bras ballants à l'extinction des derniers Mohicans sans recueillir leur capital génétique à défaut d'autres héritages. 500 peuples ont été choisis sans avoir été consultés pour faire partie de cette étude. Yo ! En Suisse, au sujet de l'avortement, un projet de loi est déposé pour plus de libéralisation. En effet, pour beaucoup des députés du Conseil national, l'avortement ne devrait pas être puni en Suisse. La commission des affaires juridiques s'est ralliée donc à une initiative parlementaire de la socialiste zurichoise Barbara Ehring-Bieder qui propose qu'on aille dans ce sens. La commission constate que le droit suisse en matière d'avortement n'a pas changé depuis 50 ans et que depuis lors, l'évolution sociale a été considérable. Les divergences entre le droit et la pratique sont toujours plus importantes, conduisent à une insécurité du droit et à des pratiques arbitraires. La tendance internationale en la matière évolue d'ailleurs vers une libéralisation, observe la Commission. Toujours en Suisse, le tribunal fédéral vient de statuer qu'un père qui n'a pas payé ses pensions alimentaires peut aller en prison. Un père donc ira en prison 2 mois de prison ferme pour une dette d'environ 20 000 francs vers sa femme et ses enfants, et cela dans l'intérêt de la famille. Car les moyens de sanctionner un parent mauvais payeur existent, et le tribunal fédéral, dans un arrêt récent, dit que ces moyens doivent être utilisés tant qu'il n'existe aucun motif particulier d'agir autrement. Le recourant est un père lucernois sans emploi qui a été condamné sur plainte du service de recouvrement compétent à 2 mois de prison ferme pour avoir omis pendant 16 mois de verser la pension qu'il devait à sa femme et à ses enfants, environ 20 000 francs. Il contestait, il disait ne pas pouvoir payer, faisant valoir qu'il n'avait pas été en mesure d'acquitter sa dette. Il était entre autres au chômage. Mais pour le tribunal fédéral, le père aurait dû payer quand même s'il n'avait pas d'emploi, car il était en mesure, à l'époque des faits, de dénicher un emploi qui lui aurait permis de remplir ses obligations. Cette appréciation, estime le tribunal fédéral, n'est pas arbitraire. Le recourant, qui a déjà écopé de 3 condamnations avec sursis pour des faits semblables, pouvait donc parfaitement être puni d'une prison ferme. Il faut savoir qu'il y a environ 500 pères qui sont chaque année condamnés en Suisse parce qu'ils ne payent pas leur pension alimentaire. Et plus de la moitié des sanctions infligées sont assorties, bien sûr, avec un sursis. En règle générale, il y a un emprisonnement de 3 ou 4 mois. Le portrait type de la personne qui ne paye pas sa pension, c'est un père de famille divorcé, âgé de 25 à 45 ans, qui traverse une passe financière difficile. Les femmes, elles, payent plus tôt, mais il est vrai aussi que moins de femmes doivent payer des pensions. En tout cas, sur les 530 condamnations, seules 11 concernaient des mères de famille. À Genève, les autorités compétentes ont actuellement plus de 2000 dossiers de recouvrement de pensions alimentaires non payées sur les bras. Selon une statistique récente, les Genevoises font des enfants de plus en plus tard. L'âge moyen de la mère à la naissance a augmenté de 2 ans durant les 2 dernières décennies pour tourner autour des 30 ans. On fait presque autant d'enfants qu'il y a 50 ans, mais qu'il y a 20 ans, mais beaucoup plus tard. Et puis, surtout, il y a énormément de naissances hors mariage et elles ont augmenté beaucoup à Genève. 10% des naissances sont hors mariage. Il y a 20 ans, ces naissances étaient plus nombreuses en Suisse, en général, que dans le canton. Elle tournait autour des 3,7 en Suisse et 3,4 en Suisse. Aujourd'hui, c'est l'inverse, avec 10% à Genève, mais seulement 6% dans l'ensemble de la Confédération. sur le front des crèches, il y a toujours trop peu de crèches à Genève. La capacité d'accueil des crèches subventionnées a augmenté, mais les enfants ont augmenté encore plus, ce qui fait qu'il y a toujours trop d'enfants qui attendent. Avec la crise, un net ralentissement des investissements et des ouvertures de crèches s'est imposé, alors que les enfants concernés, eux, attendent toujours. D'ailleurs, en parlant de crise et de crèches, selon les cantons, la récession a fortement réduit par endroits la demande dans les crèches. Et oui, on ne peut plus les payer, les femmes sont à la maison et gardent les enfants. Ainsi, à Bienne, où le taux de chômage est proche de 10%, il n'y a plus d'enfants sur les listes d'attente des garderies de la ville. Voilà. C'était les nouvelles sur Radio Pleine Lune 93.8 MHz. Je termine en vous donnant juste quelques rendez-vous pour les jours qui suivent. Vous annoncez que le 21 janvier, les Femmes en Noir, le groupe qui proteste chaque mois contre la guerre en Yougoslavie, se réunit au Centre des loisirs des Astères à 20h30. Que le 27 janvier, il y a une conférence sur le thème « Être à l'écoute des enfants, c'est être à l'écoute de l'enfant qui est en nous ». Et que le 29 janvier, une grande journée sur le thème des femmes et exilées se tiendra au bistrot des miroirs, 7 place des Grottes. Merci, au revoir. Voilà, c'était les nouvelles sur Radio Pleine Lune 93.8 MHz. Dans quelques instants, les coups de cœur de Marjolaine. À tout de suite.
Radio Pleine Lune, ne quittez pas l'écoute dans quelques instants, le Memento de Marjolaine.
Thank you.